Mettre fin à l'exploitation animale pour mettre fin à l'exploitation générale. Libre Radio, la radio des morsures qui change le lait en beau. www.libradio.org.
Alors nous sommes en compagnie de Virginia et d'Alex. Bonjour à vous et merci de prendre un petit peu de temps. Nous sommes à Morsure, c'est la journée de clôture déjà. Et on sort d'une prise de parole dont Virginia, tu es l'autrice. Ça va nous permettre de parler de ton livre et du deuxième livre. Alors voudrais-tu peut-être nous dire déjà les titres de ces livres ?
Le premier livre que j'ai rédigé il y a plus de 2 ans maintenant découlait d'une enquête sur l'industrie laitière en Suisse. Donc le titre c'est « Industrie laitière, une plaie ouverte à suturer » et c'est une question. Et le deuxième livre qui a été publié l'année passée c'était « Désobéir avec amour » où là l'idée c'était plutôt de contextualiser les actions de désobéissance civile et les actions directes dans le mouvement antispéciste.
Édition, et où les trouve-t-on ces livres ?
Alors « Industrie laitière » c'est les éditions L'Âge d'Homme. Et on le trouve soit sur commande, soit dans les librairies romandes. Et pareil pour Désobéir avec amour, mais qui a été édité par Labor et Fides.
D'accord. Là, ce sont des enquêtes à chaque fois concernant l'industrie du lait, ou ça dépasse également cela ?
Alors le premier, c'était une enquête sur l'industrie laitière, de l'élevage à l'assiette, comme on dit. Après, l'idée, c'était aussi de proposer des perspectives éthiques pour la suite, pour les animaux et aussi pour les éleveurs et les éleveuses. Et Désobéir avec amour, c'est plutôt un manifeste qui vient contextualiser ces actions dont on parlait. L'idée, c'était de faire comprendre qu'il y a des liens historiques dans les luttes sociales et que dans l'antispécisme aussi, on utilise des méthodes qui vont permettre de faire évoluer, on l'espère, la situation pour les animaux.
Également aujourd'hui, ce dont on a parlé, c'est la question des sanctuaires. Voudrais-tu nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire ?
Un sanctuaire aujourd'hui pour les animaux, il a une vocation politique qui est celle de dire que dans ces espaces-là, ces espaces, ces terres d'accueil, les animaux sont considérés comme des individus à part entière, on cohabite avec et on revendique des droits fondamentaux pour ces animaux, mais en sortant de la théorie où concrètement on va les accueillir sur place. Et c'est vraiment apprendre à cohabiter avec eux dans un autre rapport que celui de la domination. Et souvent ces animaux, bien sûr, proviennent de l'exploitation, de l'élevage, des cirques, des manèges et ont échappé à l'abattoir.
Tu l'as dit, il y a des fermières et des fermiers qui se reconvertissent, ça arrive. Alors, quelle en est la part ? Quel est le ratio de fermières et de fermiers qui se reconvertissent et de néophytes qui, parce que politiquement, ils sont antispécistes, eh bien, en créent de toutes pièces ?
Pour l'instant, malheureusement, il s'agit encore d'exceptions. Bien entendu, en Suisse, il y en a, je pense, quelques dizaines, mais plus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. En France, il y en a aussi, mais peu souhaitent être politisés aussi. Donc, pour des raisons personnelles, ce que je peux comprendre. Mais en Suisse, on a quelques exemples d'anciens éleveurs, anciennes éleveuses qui ont fait ce choix et l'ont rendu public. Et ce choix-là permet aussi de donner plus de crédibilité au mouvement parce que ce sont des personnes qui proviennent véritablement de l'exploitation des animaux, qui font ce choix d'interagir différemment avec les animaux avec lesquels ils cohabitent. Et en fait, moi, ce qui me paraît important, c'est de dire que ces personnes-là, du moment où elles s'expriment publiquement, elles ont un impact beaucoup plus fort que les militants antispécistes elles-mêmes ou eux-mêmes, qui en général sont considérés comme des personnes qui n'y connaissent rien aux animaux, ce qui n'est pas le cas, hein, mais on dira que leur poids est conséquent dans la lutte.
Tu fais partie de l'association Coexister. Voudrais-tu en dire quelques mots d'ores et déjà ? Et puis ensuite, on va revenir à la question des sanctuaires avec l'expérience d'Alex, justement.
Bien sûr. Alors, Coexister, on l'a fondé il y a un peu plus d'un an maintenant. L'idée, c'était justement de sortir de la théorie et montrer comment concrètement on pouvait cohabiter avec les autres animaux en proposant des solutions concrètes par le biais du sanctuaire, mais par le biais de l'accompagnement à la réorientation professionnelle de ces anciens éleveurs, anciennes éleveuses. Et l'idée, c'est de montrer aux êtres humains qui ont déjà fait un travail de réflexion, en tout cas sur l'antispécisme, comment faire pour entrer en relation avec les animaux en les considérant comme des individus, parce que même quand on est antispéciste, parfois on a tendance encore à les voir comme des êtres simplement à protéger et pas des individus à part entière dont la voix est à prendre en considération. Donc c'était vraiment ça l'idée.
www.asso-coexister.ch. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, donc association Coexister en un mot, sur Instagram c'est asso souligne coexister.
Voilà, l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans la convergence des luttes, je précise aussi, en essayant d'avoir un rapport le plus anticapitaliste possible dans ce dont on a besoin au sanctuaire, et on s'inscrit aussi dans la lutte écologiste radicale.
Cela dit, effectivement, comme on l'a dit, comme ça a émergé tout à l'heure pendant la discussion, on vit malheureusement dans un monde, on est enserrés, encerclés, assiégés par le capitalisme. Voilà. Donc on doit quand même utiliser un petit peu d'argent. Si jamais vous êtes à l'association, à la Banque Alternative, avec un numéro d'IBAN que je mettrai au libellé, parce que là, à le dire comme ça, c'est un petit peu long et voilà. Et puis le mail de contact est le suivant, info@asso-coexister.ch. Tout sera, bien entendu, au libellé. Si tu as encore quelques minutes, ne bouge pas. Je voulais juste, Alex, que tu nous fasses part de ton expérience dans, si j'ai bien compris, dans deux refuges distincts.
Ouais, alors le premier que j'ai fait, c'était à la Bouchkeri, en Suisse. Je connais pas très bien la Suisse. C'est au Valais, je crois, c'est ça.
Dans le Valais, d'accord.
Dans le Valais, ouais. Okay. Et le deuxième, c'est au Vernoux, où du coup, c'est en Sologne, grande terre de chasse en France. Moi, je suis rentré du coup à la Bouchkeri la première fois. J'étais juste sympathisant antispéciste, mais pas plus. J'étais même pas forcément vegan. Je me posais des questions et je suis rentré par l'intermédiaire d'une personne qui était déjà venue. Et en fait, ça a clairement fait match en fait d'avoir un vrai lien, un moment entre la théorie et la pratique. Pour moi, personne qui était juste sympathisant à un moment, mais voilà, qui voulait pas engager ma vie et organiser ma vie autour de l'antispécisme, d'avoir vraiment un endroit où c'est concret, de voir que clairement en fait, ces animaux-là ou ces individus-là ont très vite de l'affection, ont très vite du ressenti, viennent vers toi, passer plusieurs jours là-bas à faire, à donner à manger, à commencer à créer du lien avec ces individus-là. Enfin, c'est une chance. Moi, là, je vois ça un peu comme une chance que j'ai pu avoir pour rentrer, du coup, avoir. Enfin, là, c'était vraiment, j'ai mis une pied dedans et je pouvais plus, du coup, derrière faire machine arrière en me disant. Ok, bon, bah là, je fais quoi? Je vais rentrer dans ma ville et je vais continuer à manger comme d'habitude. Bah non, en fait, il y a vraiment du coup cette réflexion qui s'est faite, mais plus par plus de la passion que de la théorie. Quelque chose qui me barbe un peu, mais du coup.
D'accord. Alors, on peut dire qu'il y a un avant et un après séjour actif dans un refuge.
Ouais, je pense que du coup, ma deuxième expérience quand je suis allé au Vernoux, qui est un lieu encore vraiment différent de la Bouchkeri, c'est que la première fois, quand j'y suis allé, j'avais aussi un peu du mal à me détacher du système capitaliste en me disant, il y avait une espèce de réflexion, je comprenais pas aussi pourquoi et comment on mettait autant d'énergie pour ces individus-là, autant d'argent, etc., et qui est pas derrière de plus-value, comme on peut dire ça. Enfin, c'était ma première réflexion qui m'a un peu dérouté à ce moment-là, même si maintenant, j'y comprends vachement plus sur l'idée de la passion, l'idée de d'enlever l'oppression, etc. Enfin, et voilà, c'était surtout l'idée de, une fois que tu mets un pied dedans, ça donne un côté très concret à l'antispécisme, quoi.
Oui, tu veux réagir.
Mais en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'une des vocations des sanctuaires, je pense en effet, c'est de faire en sorte que les animaux deviennent leur propre porte-parole. Et en fait, quand des personnes sont en cheminement dans cette réflexion antispéciste, anticapitaliste et tout ce qu'on veut, en fait, il n'y a rien de plus concret que de les mettre en lien directement avec les animaux plutôt que de théoriser à côté. Parce que quand ce lien se crée, les personnes vraiment vivent un déclic, quoi. C'est évident. Nous, on voit des gens tous les jours tout d'un coup prendre une poule sur les genoux quand elle le demande et voir que c'est un individu concrètement. Et donc, on ne peut plus faire abstraction de ça après.
Oui, absolument. Donc, comme on l'a dit, on voit concrètement les réels changements et on change soi-même, effectivement. Alors, voudrais-tu nous dire, donc, combien de temps as-tu passé dans ces deux endroits-là?
Je crois que la Bouchkeri, j'y étais 2 jours. Deux jours. Et puis, au Vernoux, j'ai été une première fois 3 jours et une deuxième fois 1 semaine. Donc, la deuxième fois, on y allait 1 semaine, c'était... là clairement t'as plus envie de repartir, quoi. Tu te dis qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Je suis en train de vraiment vivre un moment de partage, un moment de rencontre avec d'autres individus, d'autres manières de vivre, et forcément c'est dès qu'on est aussi dans des lieux très forts politiquement, derrière vouloir revenir à l'espèce de la civilisation, au capitalisme, etc., enfin c'est toujours déroutant et un peu fatigant. Mais en tout cas, je trouve que c'est ultra nécessaire d'avoir des lieux comme ça, pour les personnes qui sont sympathisants, mais parce qu'en plus, et aussi pour avoir un espèce de laboratoire aussi réel sur ce qui va, ce qui va pas, nos relations aussi entre humains, qui peut être aussi des fois très compliqué, plus compliqué que humain à non humain, etc.
On l'a dit pendant la discussion, nombre de ces refuges sont en difficulté. Comment peut-on faire pour se solidariser? Comment peut-on faire pour les soutenir? Et puis, y a-t-il des sites internet ou des manières de s'informer quant à leur existence, leur localisation, la manière que l'on peut et la manière avec laquelle on peut interagir avec.
Si je veux bien répondre si tu veux. Après, tu n'hésites pas à me couper ou à compléter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les luttes sociales, il y a des divergences dans nos perceptions de comment mener la lutte le mieux possible. Et en fait, je crois que c'est important de dire que les sanctuaires sont une des solutions de la lutte. C'est pas la solution unique, mais c'en est une qui est concrète auprès des animaux. Et je pense que comme dans toutes les luttes sociales, on doit aussi beaucoup laisser notre ego de côté. C'est-à-dire que si un autre refuge fonctionne pas loin de chez nous, mais un peu différemment, c'est son droit. Et chaque expérience est bonne à prendre du moment où l'intérêt des animaux est systématiquement remis au centre des débats. Et donc déjà ça, je pense qu'en termes de solidarité, c'est important de le rappeler, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne méthode de militer pour les animaux ou avec les animaux. Il y en a plusieurs et c'est cette panoplie qui va éventuellement faire avancer les choses. Donc ça, c'est le premier élément que j'aimerais amener. Et ensuite, comment les valoriser, c'est vraiment, il y a le bouche à oreille, bien entendu, il y a certains médias qui prennent part aussi dans la lutte en mettant en lumière ces lieux-là, et ça c'est important de pouvoir compter dessus. Et après, effectivement, c'est aussi trouver des moyens de sortir un maximum du système monétaire dans ces lieux-là, de co-résistance avec les animaux, où en fait on va essayer de sortir du circuit capitaliste autant que possible, même si c'est pas possible à 100%, en faisant par exemple du troc, en proposant de récupérer des invendus de certains marchés, en proposant à des thérapeutes pour les animaux de venir bénévolement soigner les animaux, en échange ils passent un peu de temps ici pour se ressourcer. Enfin, il y a plein de manières de sortir autant que possible du système capitaliste. Et puis pour le reste qui est impossible, voilà, qui est incontournable, on compte sur des dons. Et en effet, il y a énormément de personnes, je pense, qui ne peuvent pas s'investir dans la lutte pour une raison ou pour une autre, pour des raisons familiales ou professionnelles, et qui ont à cœur de nous soutenir financièrement, et on les encourage, quoi, ces personnes à le faire en tout cas.
Alex, pour le moment, ça va. Selon vous, est-ce que ces lieux-là, ces espaces-là, contiennent également un rôle de pédagogie ludique? Je parle également, je pense également aux plus jeunes, aux enfants, pourquoi pas, également d'éducation populaire.
Oui, oui, alors c'est une des fonctions des sanctuaires. Après, c'est important de faire en sorte que ces lieux ne deviennent pas des zoos. Et là, la limite, elle est vraiment, vraiment fragile. Parce qu'en fait, si on accueille quotidiennement des grands groupes d'humains, que ce soit des enfants ou des adultes, les animaux vont être perturbés par ça. Donc c'est important de garder des espaces vraiment de tranquillité. Et même quand on accueille des groupes, par exemple chez nous au sanctuaire coexister, c'est des tout petits groupes, voire un seul individu humain qui vient et on passe du temps avec lui sur le terrain et on ne force pas le contact avec les animaux. Les animaux viennent le trouver s'ils en ont envie. Et ça, c'est fondamental comme valeur qu'on a envie de véhiculer. Donc oui, la pédagogie, absolument, mais vraiment la cadrer pour que les animaux ne soient pas perturbés par ces intrusions humaines sur leur espace.
Mmh. J'aurais trois petites remarques à vous faire qui sont des formes de questions à la volée, et puis vous répondrez à celles que vous souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez. Concernant les infrastructures, souhaiteriez-vous nous les décrire un petit peu? À quoi peut ressembler un refuge? De quelle manière est-ce que l'on met en place les choses? Quels sont les rapports qui s'installent entre animaux humains, entre animaux non humains? Avec quels outils est-ce qu'on met ça en place? L'assemblée générale, l'observation, on a parlé vraiment d'une observation fine, la patience, enfin des choses comme ça, le côté un petit peu valeur comme ça. Et quelles occupations occupent les gens dans un refuge? Vous prenez chacun comme vous voulez, les trois, une ou l'autre.
Je pense déjà sur la dernière remarque, il y a toujours énormément de travail, que ça soit en fait juste sur le fait d'avoir des clôtures parce qu'ils sont certainement nécessaires entre certaines espèces ou entre certains pour délimiter l'extérieur et l'intérieur, etc. C'est déjà un travail énorme. Ensuite, tout l'entretien, enlever. Enlever le foin qui moisit, changer régulièrement l'eau, etc., faire que les parcs soient propres, etc. C'est déjà un travail plus que fou. Si en plus tu y rajoutes le fait d'aller faire des récupérations, enfin des récup dans les magasins, d'aller demander de l'argent à droite à gauche, etc., enfin c'est, je pense qu'il y a 1000 choses à faire tout le temps dans ces endroits là.
D'accord, donc on sait là qu'il y a vraiment un gros travail qui est fourni constamment.
Oui, quotidiennement. Et puis c'est vrai que le travail se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être du travail autant administratif, parce que on est, par exemple, en tout cas en Suisse, très contrôlé par les autorités vétérinaires, ce qui fait qu'on doit avoir une administration vraiment très très rigoureuse. Donc ça, c'est aussi des tâches qui bordent le travail du sanctuaire. Et puis après, le sanctuaire lui-même, il peut avoir différentes formes. Ça dépend des lieux sur lesquels on vit. Mais par exemple, là où on est avec coexister, on a essayé de mettre le moins de clôtures possible. On part du principe que chaque individu puisse vaquer librement sur le terrain, et il y a des espaces où les espèces entre elles ou mélangées vont se reposer, faire la sieste, dormir, et ça on les laisse vraiment gérer. Donc c'est des, ce qu'on appelle des sabulations libres, c'est-à-dire que c'est des box mais qui sont ouverts dans lesquels les animaux peuvent entrer ou sortir.
Redis le mot.
Stabulation libre.
Stabulation libre.
Voilà,
merci.
Ça c'est quelque chose en tout cas qu'on a à cœur de maintenir. C'est-à-dire qu'on ferme pas les portes, à part les poules la nuit, pour éviter qu'elles se fassent manger par les renards. Mais autrement, tout est ouvert. Et d'ailleurs, on a la chance vraiment d'habiter sur un terrain où il y a un grand espace en forêt. Et cet espace est complètement laissé sauvage pour les animaux de la forêt. Donc on vient pas perturber leur équilibre. Et du coup, les animaux du sanctuaire et ceux de la forêt peuvent coexister sur cet espace-là. Et nous, on n'intervient pas.
D'accord. Alors, concernant l'infrastructure, voudrais-tu, Alex, toi aussi, nous décrire un petit peu les deux espaces où tu es allé, en quelques mots ?
Alors, les deux sont vraiment hyper distincts. Celui dans le Valais, c'est plus un petit espace, une espèce de lieu de vie, pour humains, mais qui n'est pas spécialement, enfin je me rappelle plus vraiment, mais en tout cas moi mon ressenti c'était assez mélangé entre non humain et humain, mais ça restait, voilà, il y avait une route à côté,
c'est un refuge en ville en fait,
ouais,
hein, ils sont vraiment contraints par la ville.
D'accord.
C'est vrai que c'est pas très grand en termes de surface, mais il y a un travail magnifique qui est fait quotidiennement auprès des animaux, mais ils sont contraints par l'infrastructure, ça c'est clair. Ils cherchent d'ailleurs à acquérir un autre terrain un peu plus éloigné du centre de Martigny, quoi.
D'accord. Ce que je me demandais également, c'est y a-t-il effectivement des animaux, donc en général humains, non humains, résidents et externes de passage, et quelle en est la proportion ?
Alors, pour parler de coexister, parce que je ne sais pas comment fonctionnent les autres sanctuaires, mais en tout cas chez nous, il y a bien sûr des individus qui sont attachés au lieu et attachés entre eux ou attachés à nous. Et ces individus, ils vont rester au sanctuaire parce que c'est important pour eux. On fait vraiment attention aux besoins de chaque individu au-delà des intérêts de l'espèce. Et après, il y a des individus qui viennent temporairement, simplement parce que les personnes responsables de ces animaux doivent déménager, par exemple, ou autre. Mais là encore, on essaie de faire en sorte que ça soit l'intérêt des animaux qui prime. C'est-à-dire que si ces animaux tout d'un coup créent un attachement au lieu, on ne va pas les extraire de ce lieu simplement parce que les dits propriétaires veulent les reprendre. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et il y a des individus qui ne se sentent pas bien dans certains contextes en sanctuaire parce qu'ils ont envie de vivre plutôt seuls dans une famille à l'intérieur. On a aussi vécu comme ça avec certains chats qui veulent rester les seuls avec certains humains. Et du coup, dans ce sens-là, on va trouver des familles qui correspondraient mieux à leurs besoins.
D'accord. À l'intérieur de ces refuges, quelles sont les modalités de décision ? Quels sont les rapports qui s'installent entre animaux de toutes sortes ?
Là, on en apprend quotidiennement beaucoup parce que les interactions varient et évoluent de jour en jour. Donc, il y a des fois des rapports de clans et de hiérarchie, et des fois tout d'un coup plus du tout. Des fois, enfin, c'est vraiment là, c'est tellement fluctuant et c'est ce qui est magnifique en fait quand on cohabite avec eux et qu'on prend le temps vraiment de les observer. On se rend compte qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble parce que leur interaction évolue. Et c'est aussi, je rebondis là-dessus pour parler des soins dont on parlait peut-être tout à l'heure. En fait, le meilleur soin qu'on peut octroyer à ces animaux, je pense, c'est vraiment de prendre le temps de l'observer, l'individu, et voir comment est-ce qu'il réagit quand il va bien, et ensuite voir comment ça se passe quand il va moins bien. Et plutôt que de tout de suite penser à une médication, déjà voir et comprendre qu'est-ce qui se passe dans son affect pour pouvoir intervenir là-dessus.
Est-ce qu'un des mots clés, c'est l'empathie également, peut-on dire ?
Alors l'empathie, oui, et surtout la reconnaissance de son individualité en tant que telle, parce que comme je disais, même en tant qu'antispéciste, des fois on a cette tendance à dire ouais, mais c'est quand même moi qui décide des horaires, etc. Non, et ben dans un sanctuaire, on va essayer d'apprendre vraiment différemment à partir de leur réalité.
Donc les temporalités également sont questionnées.
Tout à fait.
Quant aux décisions qu'il faut prendre, à un moment donné, il faut dire voilà, est-ce qu'on va il va falloir refaire quelque chose, il va falloir peut-on étendre le domaine, des décisions sont prises. Est-ce que là on a également, en termes d'animaux humains, une forme d'horizontalité qui a cours d'autogestion. Comment ça se passe ?
Moi, je ne pourrais pas forcément répondre là-dessus.
Oui, alors de toute façon, quand on collabore ensemble sur un terrain, on se concerte avant de prendre des décisions importantes. Et de nouveau, je rappelle, l'important, c'est vraiment de mettre au centre les intérêts des animaux avant nos histoires de fausses croyances, d'égo, etc., qui peuvent vite véhiculer quand on collabore avec des humains.
Deux petites questions et puis on s'arrêtera là. Si ça vous va encore deux petites, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est important ce que vous dites. Pour tous les deux, quel regard des voisins ? Les voisins, est-ce l'ennemi ou est-ce l'allié ? Comment est-ce que vous avez pu ressentir le regard qui est porté sur vous par les gens du voisinage, etc., etc.
J'imagine que... Enfin, spontanément, je pourrais dire que ça peut être les deux, mais je pense plus à croire que ça peut être que tout le monde peut à un moment être un allié comme un autre, quoi. Que ça soit un allié juste physique, de venir filer des coups de main de temps en temps, ou un allié de mettre à disposition des fois son champ, un peu de foin, etc. Ou juste un allié, enfin, ou pas un allié, ou juste quelqu'un de neutre qui en fait s'en fiche et voilà, il fait sa vie et sans entraver ce qui se passe à ce moment-là. Mais j'imagine que chaque cas est clairement différent. Mmh.
Bon, alors nous, concrètement, quand on a débarqué dans le Chablais vaudois, là, il y a 6 semaines, on s'est vite rendu compte que dans le village, il y avait énormément d'éleveurs qui connaissaient notre venue. Donc, on a été accueillis vraiment comme si c'était important pour eux de nous tester, voir si on allait venir caillasser leur maison parce qu'eux étaient des éleveurs. Donc, en fait, là, on a dû aller à leur rencontre de manière tout à fait ouverte et franche en disant, voilà, nous, on va fonctionner comme ça. C'est pas parce que vous fonctionnez différemment qu'on doit être ennemis. Par contre, on espère pouvoir servir humblement d'exemple dans le village, c'est-à-dire de montrer que c'est possible d'être dans un autre rapport aux animaux et ensuite entamer des dialogues avec ces personnes. Ce qui est important de dire, c'est que même quand on est militant antispéciste offensif ou offensive, quand on cohabite avec des animaux sur des sanctuaires comme le nôtre par exemple, si on entretient des rapports guerriers avec le voisinage, ça peut être un danger pour les animaux eux-mêmes, parce que c'est très facile de venir empoisonner des animaux qui vivent sur le terrain quand il y a ce genre de conflit. Donc on doit aussi prendre en considération cet élément-là quand on va à la rencontre du voisinage. Et pour l'instant, ça se passe super bien, donc on est très heureux de ça.
Génial. Dernière question concernant les lobbies. On sait la force et la puissance des lobbies du lait, de la viande, notamment en Suisse, concernant, on a parlé tout à l'heure concernant le lait, le cacao également. Est-ce que vous ressentez, depuis la position des refuges, une hostilité de ces lobbies-là, ou est-ce que, a priori, on peut dire que de ce côté-là, vous êtes tranquille, vous êtes laissé tranquille?
Je crois qu'on est trop petit face aux lobbies, d'accord, pour être honnête, pour être un danger pour les lobbies eux-mêmes. Donc pour l'instant, on n'est pas inquiété. On est plutôt sous le regard et le contrôle des autorités vétérinaires qui ont très à cœur de venir vérifier que nos installations soient aux normes, etc. Parce que c'est en général ce qui est reproché aux éleveurs que les antispécistes ont mis en lumière par le biais des caméras cachées. Donc je dirais que plutôt les hostilités peuvent venir de ces milieux-là. Les lobbies, je crois qu'ils s'en fichent un peu pour l'instant.
Bonjour, une question. Où est-ce que vous avez eu les acquis pour gérer un sanctuaire? Et comment d'autres personnes pourraient se renseigner sur le sujet? Et deuxième question, est-ce que vous avez de l'espoir par rapport à l'avenir? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura de plus en plus de sanctuaires et que le mouvement spéciste, antispéciste va prendre de l'ampleur, un peu comme les mouvements antiracistes? Quel est votre point de vue?
Je dirais que pour cohabiter avec des animaux et faire en sorte de s'en occuper le mieux possible, c'est déjà de les observer et de les entendre. Parce que oui, on peut avoir appris certaines théories vétérinaires, etc. Je ne néglige pas ça, mais en fait, le meilleur apprentissage, il se fait quand même à leur côté, je pense. Donc on doit avoir des bases sur leurs besoins fondamentaux, mais après, c'est de l'expérimentation et c'est de là qu'on apprend le plus. Moi, j'apprends le plus quotidiennement avec les poules, pour donner un exemple tout à fait concret. J'aurais envie d'encourager les gens déjà à se poser juste avec des animaux de temps en temps et puis les observer et les entendre.
Peut-être en travaillant eux-mêmes dans un sanctuaire.
Ouais, clairement. Et je pense que tout le monde devrait faire cette expérience-là, mais de la même manière que toutes les personnes qui sont réfractaires au message antispéciste devraient passer une journée dans un abattoir. Parce que, en fait, ces réalités sont quotidiennes pour les animaux et on ne peut pas en faire l'économie. Par rapport à ta question liée à l'espoir ou non pour la suite, alors... Il y a quelques années, j'aurais eu l'espoir, en effet, que le débat public autour de l'antispécisme soit si fort que les changements concrets en société puissent s'opérer. Aujourd'hui, j'y crois plus trop, honnêtement. Je pense que l'effondrement écologique, vu qu'il est pour demain, on le sait, on n'aura pas le temps de créer un monde purement égalitariste. Parce que même, en fait, en observant les luttes sociales passées, même s'il y a de très nombreux mouvements militants antiracistes et antisexistes, le sexisme et le racisme ne s'estomperont jamais, en fait, concrètement. Donc, du coup, je pense qu'on peut créer des espaces de résistance comme dans les sanctuaires, mais croire que le système va changer, c'est un leurre. Le système sera quand même plus fort que nous, malheureusement. Et donc, on peut uniquement complètement lutter à notre échelle et quotidiennement et de manière acharnée, que ce soit par le biais des sanctuaires, par le biais de la lutte offensive. Pour moi, ça va vraiment ensemble. Mais en tout cas, moi, j'ai plus d'espoir que le monde change. Je pense que le monde, malheureusement, est dans cet équilibre entre les injustices et les espaces où les justices sont possibles, où la justice est possible. Et donc j'aurais envie d'encourager plutôt les gens à œuvrer quotidiennement autant que possible pour des mondes dans lesquels ils croient, ils et elles croient. Par contre, pas avoir l'utopie de penser qu'on y parviendra, quoi, à une société antispéciste, ça, j'y crois pas.
Et quel est ton point de vue par rapport à l'antispécisme radical? Peut-être l'utilisation de la violence, est-ce que c'est quelque chose qui dessert au mouvement, ou bien au contraire, il faut qu'on prenne des mesures radicaux, en fait?
En fait, on parle de violence dans la lutte antispéciste. Il faut savoir que c'est une violence qu'on appelle celle de la libération. C'est la violence de la libération qui vient répondre à une violence beaucoup, beaucoup plus conséquente et une violence systémique qui est ancrée vraiment dans la société. Donc moi, je parle même pas de violence dans les actions, par exemple, de sabotage, où on va, par exemple, mettre le feu à un abattoir au caillasse et des vitrines, pour prendre ces exemples-là. Ça, c'est juste des moyens d'être dans la légitime défense, et c'est, je crois, le minimum qu'on puisse faire, même si la répression est très très grande, et il faut être attentif et attentive à ça. Je pense que c'est des actions qui doivent être menées en parallèle des autres méthodes de lutte qui vont aller plutôt dans le consensus, parce que on va toucher des publics différents. Par exemple, les actions de sabotage vont avoir un impact économique direct sur la filière et vont sauver des vies concrètement, par exemple dans les libérations ou dans le fait qu'un abattoir brûle. Un abattoir qui est incendié, il peut pas fonctionner pendant un certain temps, et si on calquait ça sur d'autres luttes sociales passées, on le sait très bien, si par exemple même aujourd'hui on faisait sauter une maison close, je pense qu'il y aurait pas beaucoup de gens qui seraient défavorables à ce genre de méthode là parce que c'est une action concrète. Donc en fait, je pense qu'il y a à recontextualiser ces actions là qui sont complémentaires aux autres. Donc oui, elles sont favorables. Il faut aussi penser que c'est pas toujours à court terme qu'on peut mesurer les bénéfices d'une action, c'est vraiment aussi à moyen et long terme. Et en fait, ces actions de sabotage, en tout cas en Suisse et en France, ont fait beaucoup de bruit, mais elles ont surtout permis de créer un débat public et politique autour de la question des animaux, ce qui est absolument nécessaire. En fait, tant qu'on était dans la sensibilisation et le consensus, il n'y avait pas de débat, ou quasi pas. Et aujourd'hui, il est incontournable.
Et puis, est-ce que vous cherchez le soutien des politiques et le soutien de la population, ou pas?
Alors, je crois que ça dépend vraiment de nos positions. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont engagées en politique, qui sont radicales et très cohérentes, et qui ont à cœur aussi de faire changer le système. Et avec ces personnes-là, on doit dialoguer. Il y en a que je connais personnellement. Après, personnellement, j'ai pas du tout foi dans le système politique actuel, donc je pense qu'il est de toute manière à changer fondamentalement pour qu'on puisse obtenir quelque chose. Je sais pas si on aura le temps, comme je disais tout à l'heure. Donc je dirais que plutôt que la collaboration avec les politiciens, c'est plutôt trouver auprès des politiciens certaines personnes qui ont une visée relativement cohérente et radicale, et encourager ces personnes-là à s'engager davantage, parce qu'on n'est pas toutes et tous voués à faire de la politique, par exemple.
Est-ce qu'il y a des modèles vers qui... Enfin, des figures tutélaires vers qui tu tournes, enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent?
Tu dis dans le monde politique ou
Non, plutôt dans le monde des idées.
Ouais, les animaux, ouais. Non, vraiment, en cohabitant avec eux, je me rends compte que ce sont les meilleurs... déjà, comme je disais, ce sont leurs meilleurs porte-parole, et c'est vraiment les enseignants les plus... conséquents que je peux mesurer dans ma vie. Bien sûr, il y a des personnes qui m'inspirent, mais ces animaux-là ont cette... comment je pourrais dire ça ? On sait de sagesse que certains humains n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'instant présent en permanence, et puis quand ils créent du lien, c'est que c'est volontaire, que c'est authentique, et quand il y en a, c'est vraiment gratifiant. Donc moi, je dirais que oui, moi, j'ai une individu à laquelle je pense, c'est Priya, c'est une poule handicapée qu'on a récupérée il n'y a pas longtemps, et on pense que c'est une pacificatrice, vraiment, elle a un rôle comme ça auprès des autres animaux, les autres animaux viennent se coucher autour d'elle pour vraiment méditer, quoi. C'est hallucinant, et je ne pensais pas que c'était possible, même en tant qu'antispéciste. Donc moi je dirais Priya alors qui m'inspire.
Alors pour en terminer doucement, de vos points de vue, a-t-on beaucoup à apprendre des animaux non humains?
Oui, c'est sûr, hein, de comprendre aussi des phénomènes de groupe, des phénomènes de meute, de clan, ou des moments où des choses ne sont pas vraiment palpables, etc., ou même sur leur manière de se soigner, de manger ou non certaines choses, etc., d'avoir un espèce d'instinct aussi à des moments, je pense que oui. Et puis clairement, et puis comme tu disais tout à l'heure, observer les animaux, ça reste quelque chose d'assez fort, quoi.
Ouais, bah je me répète, mais j'apprends plus en étant auprès des animaux que dans la lecture de certaines théories philosophiques autour de l'antispécisme, même si j'ai beaucoup de respect pour les philosophes antispécistes, je pense qu'il y a quelque chose de concret qu'on ne peut pas expérimenter par le biais des ouvrages. Il faut faire l'expérience de vivre avec les animaux pour s'en rendre compte.
Est-ce qu'il y a des lieux où on peut aller faire du bénévolat pour aider, soutenir le mouvement antispéciste ?
Alors partout dans le monde, il y a des sanctuaires qui existent, hein, on peut peut-être en fournir une liste, mais en Suisse, en France, il y en a un certain nombre, et puis le bénévolat est bienvenu, mais pas partout. Je sais qu'il y a des sanctuaires qui ne veulent pas ouvrir la porte aux bénévoles, ce que je peux comprendre aussi, parce qu'ils ont peur qu'il y ait une affluence trop forte. Chez nous, par exemple, à Coexister, on accepte les bénévoles, mais seulement pour des missions ponctuelles dans le mois, où on essaie de faire venir les gens à ce moment-là pour qu'ils viennent nous donner un coup de main, mais dans l'entretien quotidien, on préfère que ça soit un tout petit groupe de personnes qui connaissent bien les animaux, qui s'en occupent pour éviter de les stresser, quoi. Mais oui, c'est un endroit où on peut venir se former, c'est clair.
Puisque vous travaillez avec des agriculteurs qui ont une formation dans le domaine, ou c'est pas nécessaire?
Ça peut aider, ouais. Ça peut aider d'avoir des liens avec certaines fermières, mais on peut aussi apprendre différemment, parce que le rapport que certains fermiers ont entretenu avec leurs animaux ou les animaux avec lesquels ils vivent peut être très biaisé par la rentabilité, alors que si on travaille avec des thérapeutes qui sont, moi je dis les thérapeutes holistiques, c'est-à-dire les personnes qui voient l'individu, l'animal dans sa globalité, bah on peut en apprendre beaucoup plus que simplement en le voyant comme un individu qui a besoin de manger tant de rations, de foin, etc. quoi. Donc je pense que les apprentissages sont complémentaires, et puis il faut simplement avoir un feeling et une confiance dans la personne qui est en face.
Puis vous cherchez de vivre hors un système monétaire, c'est juste ?
Autant que possible. C'est pas possible à 100%, mais autant que possible. Ouais. C'est-à-dire qu'on va récupérer plutôt les invendus en termes de fruits et légumes plutôt que de les acheter, et puis trouver des agriculteurs qui nous donnent du foin gratuitement contre d'autres échanges. On va essayer de faire ça, mais c'est pas toujours possible. Par exemple, en cas d'urgence vétérinaire, si un animal accidenté, on doit aller chez le vétérinaire traditionnel, et puis ça coûte des milliers de francs. Mais par contre, pour les autres soins quotidiens, même s'il y a un problème de santé, une maladie ou autre, on essaie de travailler autrement, avec les plantes, avec la naturopathie, avec d'autres moyens que la chimie.
Merci beaucoup à tous les deux. Virginia, voudrais-tu rappeler les références de tes livres et également les références de l'association Coexister ?
Alors, l'association Coexister, oui, on peut la trouver sur Internet. C'est www.asso-coexister.ch. Et puis, on est sur les réseaux sociaux et sur Instagram, Facebook notamment. Maintenant, par rapport au livre, oui, donc il y a ce livre sur l'industrie laitière que j'ai rédigé il y a 2 ans, mais j'ai beaucoup évolué depuis que je l'ai rédigé. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma perception et du coup, qui sont obsolètes dans mes écrits. Par contre, on y trouve des informations concrètes sur l'industrie réelle du lait aujourd'hui en Suisse. Et Désobéir avec amour, qui est un manifeste antispéciste qui permet de contextualiser justement les actions directes, notamment de sabotage ou les actions de désobéissance civile dans le cadre de la lutte antispéciste.
Et toi, Alex, voudrais-tu peut-être nous dire, y a-t-il des sites ou des contacts pour les espaces auxquels tu t'es rendu ?
Alors du coup, là, on va essayer de rédiger une feuille sur les différents lieux qu'on peut trouver en France, en Europe. Et je pense que tu pourras prendre en photo et la mettre après.
Je mettrai comme ça. Et toi, du coup, parce que effectivement, vous avez quand même tous les deux des situations très différentes. Virginia, tu as un pied dedans, un pied dehors. Et toi, Alex, j'imagine qu'un de tes souhaits, c'est d'y retourner le plus vite possible.
Ouais, carrément.
Très bien.
Même si les autres luttes me prennent énormément de temps, mais on peut pas être partout non plus, quoi.
D'accord.
C'est des lieux où on peut se ressourcer aussi quand on est militant et militante. C'est ça qui est bien.
Très bien. Bah, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup et bon courage pour la suite de Morsure.
Merci.
Merci.